incurable, insupportable, invivable, incurable.
Dans cet univers de la parole, dans ces paroles cosmiques.
Dunque, dottore, ha capito? Caporale si nasce, non si diventa.
No! Ma porca miseria!
Eh bien, on sent que nous sommes devant un acte de gravité de la parole humaine et que nous sommes ici devant une réalisation cosmique extraordinaire. Jamais l'homme n'a été si puissant depuis qu'il parle à la radio.
La radio des petits agités.
Alors bonjour, donc aujourd'hui on est tous réunis ici pour notre deuxième émission, notre mensuelle. Alors après un court débat, nous avions hésité la première fois entre le coin du lien et Porca Miseria. Donc nous avons voté à la quasi-unanimité, je crois, pour rebaptiser définitivement notre émission Porca Miseria. Voilà. Donc aujourd'hui le thème de notre émission, c'est Paris et lieu de pouvoir. Voilà, donc je vais laisser la parole à Fabien qui va introduire cette émission. À toi Fabien.
Alors... Pour commencer, je suis allé à Paris avec Jem de Conda, où j'ai retrouvé Julien, Fanny, Barbara, Gaël, Céline et Amandine. Tous ensemble, nous avons assisté à des projections de films, mini-créations, spectacles de différents Jem de diverses régions. Les patients expriment leurs ressentiments et la vie au quotidien, leurs pathologies et aussi la prise médicamenteuse. Malgré la maladie, ils parviennent quand même à retrouver l'espoir, la joie et la confiance en eux. Certains travaillent, d'autres s'occupent en cours de théâtre, peinture, cuisine, etc. La première journée a été consacrée au voyage. Après une bonne nuit de sommeil, nous sommes rendus au média 6 vidéos. Les séances de projection se sont enchaînées toute la journée. Où, pour ainsi dire, j'ai pu boire mon café à la machine lors de la pause. Il était bon et je me suis régalé. Il y avait une bonne ambiance, c'était cool. Merci, au revoir.
Merci Fabien, belle introduction. Donc comme lors de l'émission précédente, nous allons commencer par des lectures de textes. Qui commence pour introduire cette première partie d'émission ? Fanny, tu commences ?
Oui.
Allez, on t'écoute.
Mon beau Paris de Raymond Queneau. Maison lépreuse, maison colérique, maison empestée, bâtisse fienteuse, immeuble atteint de rougeole, de scarlatine, de vérole, pavillon chlorotique, pavillon scrofuleux, pavillon rachitique, hôtel particulier constipé, baraque taudis. Merci.
Ensuite, la parole à Julien.
Paris. Nous de beauté qu'en son histoire. Mais cette histoire est belle tellement la scène est encaissée, absurdement, mais son vert clair. Et lui seul vaut la gloire. Paris n'a de gaieté que son dégoût. Mais ce dégoût encore cassé immonde. Il fait le tour des langages du monde. Selon un peu de trop fade ragoût. Paris n'a de sagesse que le sombre flux et son peuple et de ses factions. Alors, il se fait des révolutions avec l'ordre embusqué dans la pénombre. Paris n'est que sa fille de charmante, laquelle naît au prix de l'exotique. Que trop gentil et vise et vice que peu pratique. Est-ce quasi désintéressement. Paris n'a de tomber que sa légère inverse de plaisir sans rien de trop que le vague désir de voir son plaisir égayer son frère. Paris n'a rien de triste et de cruel que le poète annule ou chronique. Servant, crevant la nuit sous l'œil d'une clinique. Non loin de vieil ouvrier fraternel. Vive Paris quand la même est son histoire et son dégoût de sa fille naïf. Produit de l'art, d'un art pervers et primitif. Et meurt son poète expiatoire.
Merci Julien. Ensuite, une lecture d'Amandine.
Alors, moi, je vais vous lire des extraits de « Tentative d'épuisement d'un lieu parisien » de Georges Perec. Il y a beaucoup de choses. Place Saint-Sulpice, par exemple, une mairie, un hôtel des finances, un commissariat de police, trois cafés, dont un fait tabac, un cinéma, une église à laquelle ont travaillé Levaux, Gitard, Oppenor, Servandoni, Chalgrin, et qui est dédié à un aumônier de Clotaire II, qui fut évêque de Bourges de 624 à 644, et que l'on fête le 17 janvier. Un éditeur, un hôtel, une fontaine, que décorent des statues de quatre orateurs chrétiens, Bossuet, Fénelon, Fléchier, Massillon. Un kiosque à journaux, un marchand d'objets de piété, un parking, un institut de beauté, et bien d'autres choses encore. Un grand nombre, sinon la plupart, de ces choses ont été décrites, inventoriées, photographiées, racontées et recensées. Mon propos dans ces pages qui suivent a plutôt été de décrire le reste. Ce que l'on note généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n'a pas d'importance. Ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages. Date. Le 18 octobre 1974. Heure, 10h30. Lieu, Tabac Saint-Sulpice. Le temps, froid sec, ciel gris, quelques éclaircies. Esquisse d'un inventaire des quelque chose strictement visible. des lettres de l'alphabet, des mots, KLM, sur la pochette d'un promeneur, un P majuscule qui signifie parking, hôtel Récamier, Saint-Raphaël, l'épargne à la dérive, taxi tête de station, rue du Vieux-Colombier, brasserie-bar La Fontaine Saint-Sulpice, PELF, parc Saint-Sulpice. Des symboles conventionnels, des flèches, sous le P des parkings, l'une légèrement pointée vers le sol, l'autre orientée en direction de la rue Bonaparte, côté Luxembourg. Au moins 4 panneaux de sens interdit, un 5e en reflet dans la glace du café. Des chiffres. 86, le sommet d'un autobus de la ligne numéro 86, surmontant l'indication du lieu où il se rend, S, Saint-Germain-des-Prés. 1, plaque numéro 1 de la rue du Vieux-Colombier. 6, sur la place indiquant que nous nous trouvons dans le 6e arrondissement de Paris. Des slogans furtifs. De l'autobus, je regarde Paris. De la terre, du gravier tassé et du sable. De la pierre, la bordure des trottoirs, une fontaine, une église, des maisons. De l'asphalte, des arbres, feuilles souvent jaunissantes. Un morceau assez grand de ciel, peut-être 1/6 de mon champ visuel. Une nuée de pigeons qui s'abat soudain sur le terre-plein central, une église et la fontaine. Des véhicules, leur inventaire reste à faire. Des êtres humains, une espèce de basset, un pain, une baguette, une salade frisée, débordant partiellement d'un cabas. Date, 18 octobre 1974. Heure, 12h40. Lieu, le café de la mairie. Plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'actions simultanées, de micro-événements dont chacun implique des postures, des actes moteurs, des dépenses, d'énergie spécifique. Discussion à deux, discussion à trois, discussion à plusieurs, le mouvement des lèvres, les gestes, les mimiques expressives. Mode de locomotion, marche, véhicule à deux roues, sans moteur, à moteur. Des automobiles, voitures privées, voitures de firme, voitures de louage, auto-école. Véhicules utilitaires, services publics, transport en commun, car de touriste. Mode de portage, à la main, sous le bras, sur le dos. Mode de traction, cabas à roulettes. Degré de détermination et de motivation. Attendre, flâner, traîner, errer, aller, courir vers, se précipiter, vers un taxi libre par exemple. Chercher, musarder, hésiter, marcher d'un pas décisé. Position du corps, être assis, dans les autobus, dans la voiture, dans le café, sur les bancs, être debout, près de l'arrêt de l'autobus, devant une vitrine, la fond, pompe funèbre, à côté du taxi, le payant. Trois personnes attendent de l'arrêt des taxis. Il y a deux taxis, leurs chauffeurs sont absents, taxi capuchonné.
Merci Amandine. Alors ensuite, nous avons une lecture de texte de Christian. C'est à toi Christian.
Bonjour.
Attends, prends bien le...
Bonjour, je m'appelle Christian, je fais partie du GEM de Fumel. Je suis atteint d'une maladie mentale, la schizophrénie. Donc, je n'ai pas pu monter à Paris avec le GEM de Fumel parce que j'étais hospitalisé. Donc, je vais vous présenter plutôt les différents lieux connu de Paris et très merveilleux à visiter et partager de bons moments. N'ayant pas pu monter sur Paris pour cause d'hospitalisation, je vais vous présenter la ville de Paris et ses monuments. Donc, je commence. Le centre Georges Pompidou. Centre Pompidou, la Tour Eiffel avec la place du Trocadéro, Montmartre, la Jode, l'avenue des Champs-Élysées, considérée comme la plus belle au monde, Châtelet-Léal, le château de Versailles, et derrière Ah oui, derrière le château de Versailles, derrière son parc magnifique, la cathédrale Saint-Michel, Château Léal, le Stade de France, Pigalle, Saint-Denis. Je vous en décrirai beaucoup d'autres. Je suis monté à Paris dès l'âge de 10 ans pour le train, par avion, le mode de transport quelconque. Tout est bon pour voir une ville de rêve. Voilà, c'est la fin.
Merci Christian. Ensuite, nous avons l'honneur d'avoir une lecture de texte de Barbara. Bienvenue Barbara.
Bonjour. Alors c'est une dédicace à Julien, qui n'a pas vu toujours pas vu la Tour Eiffel. Et qui rêvait de voir la Tour Eiffel. Donc c'est la Tour Eiffel de Maurice Carême. Qui est là, toujours là dans la ville, et qui pourtant sans cesse arrive et qui pourtant sans cesse s'en va. C'est un fleuve, répond un enfant, un devineur de devinettes. Et puis l'œil brillant, il ajoute, et le fleuve s'appelle la Seine. Quand la ville s'appelle Paris, et la Seine, c'est comme une personne. Des fois, elle court, elle va très vite. Elle presse le pas quand tombe le soir. Des fois, au printemps, elle s'arrête et vous regarde comme un miroir. Et elle pleure si vous pleurez, ou sourit pour vous consoler. Et toujours, elle éclate de rire quand arrive le soleil d'été.
Ensuite, nous avons aussi l'honneur d'avoir une lecture de texte de Gaëlle.
Donc je vais vous lire le Spleen de Paris de Charles Baudelaire. Où fait-il bon, même au cœur de l'orage? Où fait-il clair, même au cœur de la nuit? L'air est alcool et le malheur courage, car au cassé l'espoir encore éluit, et les chansons montent des murs détruits. Jamais éteint, renaissant dans sa braise, perpétuel brûlot de la patrie, du point du jour jusqu'au Père-Lachaise, ce doux rosier au mois d'août refleurit. Gens de partout, c'est le centre de Paris. Rien n'a l'éclat de Paris dans la poudre. Rien n'est si pur que son front d'insurgé. Rien n'est si fort, ni le feu ni la foudre, que mon Paris défiant les dangers. Rien n'est si beau que ce Paris que j'ai. Rien ne m'a fait jamais battre le cœur. Rien ne m'a fait ainsi rire et pleurer. Comme ce cri de mon peuple vainqueur, rien n'est si grand qu'un linceul déchiré. Paris, Paris, sois même libéré.
Merci Gaëlle. Fanny, je crois que tu as un autre texte à nous lire.
Oui, c'est un texte assez long. C'est un extrait du parfum du livre Le Parfum de Patrick Susskind. Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque, qui pourtant ne manqua pas de génies abominables. C'est son histoire qu'il s'agit de raconter ici. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille, et si son nom, à la différence de ceux d'autres scélérats de génie comme par exemple Sade, Saint-Just, Fouché, Bonaparte, etc., est aujourd'hui tombé dans l'oubli, ce n'est assurément pas que Grenouille fut moins bouffi d'orgueil, moins ennemi de l'humanité, moins immoral, en un mot, moins impie, que ses malfaisants plus illustres. Mais c'est que son génie et son unique ambition se bornèrent à un domaine qui ne laisse point de traces dans l'histoire, au royaume évanescent des odeurs. À l'époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Et c'est naturellement à Paris que la puanteur était la plus grande, car Paris était la plus grande ville de France. Et au sein de la capitale, il était un endroit où la puanteur régnait de façon particulièrement infernale, entre la rue aux Fers et la rue de la Ferronnerie, c'était le cimetière des Innocents. Pendant 800 ans, on avait transporté là les morts de l'Hôtel Dieu et des paroisses circonvoisines. Pendant 800 ans, on y avait jour après jour charroyé les cadavres par douzaines et on les y avait déversés dans de longues fosses. Pendant 800 ans, on avait empli par couches successives charniers et ossuaires. Ce n'est que plus tard, à la veille de la Révolution, quand certaines de ces fosses communes se furent dangereusement effondrée et que la puanteur de ce cimetière débordant déclencha chez les riverains non plus de simples protestations mais de véritables émeutes, qu'on finit par le fermer et par l'éventrer. et qu'on pelleta des millions d'ossements et de crânes en direction des catacombes de Montmartre, et qu'on édifia sur les lieux une place de marché. Or, c'est là, à l'endroit le plus puant de tout le royaume, que vit le jour, le 17 juillet 1738, Jean-Baptiste Grenouille. C'était l'une des journées les plus chaudes de l'année. La chaleur pesait comme du plomb sur le cimetière, projetant dans les ruelles avoisinantes son haleine pestilentielle, où se mêlait l'odeur des melons pourris et de la corne brûlée. La mère de Grenouille, quand les douleurs lui vinrent, était debout derrière un étal de poissons dans la rue aux fers et écaillait des gardons qu'elle venait de vider. Les poissons prétendument pêchés le matin même dans la Seine puaient déjà tellement que leur odeur couvrait l'odeur de cadavres. Mais la mère de Grenouille ne sentait pas plus les poissons que les cadavres car son nez était extrêmement endurci contre les odeurs. Et du reste, elle avait mal en tout le milieu du corps et la douleur tuait toute sensibilité aux sensations extérieures. Elle n'avait qu'une envie, c'était que cette douleur cessât. Elle voulait s'acquitter le plus vite possible de ce répugnant enfantement. C'était son cinquième. Tous les autres avaient eu lieu derrière cet étal et à tous les coups, ça avait été un enfant mort-né ou à peu près, car cette chair sanguinolente qui sortait là ne se distinguait guère des déchets de poissons qui gisaient sur le sol et ne vivait d'ailleurs guère davantage et le soir venu, tout cela était balayé, pêle-mêle, et partait dans des carrioles vers le cimetière ou vers le fleuve.
Merci Fanny. Julien, t'écoutons.
Paris est une fête. Vous vous attendez à être triste en automne. Une partie de vous-même meurt chaque année. Quand les feuilles tombent, des arbres dont les branches demeurent nues sans le vent et le froid et la froide lumière hivernale. Mais vous savez déjà qu'il y aura toujours le printemps, que le fleuve coulera de nouveau après la fonte des glaces. Aussi, quand la pluie froide tenait bon et tuait le printemps, on eut dit la mort inexplicable d'un adolescent. Et même si le printemps finissait toujours par venir, il était terrifiant de penser qu'il avait failli succomber. Avec les pêcheurs et la vie sur le fleuve, les belles péniches et leurs mariniers vivant à bord, les remorques avec leurs cheminées qui se rabattaient devant et en arrière au passage du pont, tirant tous les trains de péniche. Les grands ormes sur la berge de pierre le long du fleuve, les plantes et par endroits les peupliers, je ne pense jamais à me sentir seul à bord de la Seine. Il y avait tant d'arbres dans la ville que vous pouviez voir le printemps se rapprocher jour après jour jusqu'au moment où une nuit de vent chaud s'installèrent dans la place, entre le soir et le matin. Parfois d'ailleurs, les lourdes pluies froides le faisaient battre en retraite, et il semblait qu'il ne viendrait jamais et que ce serait une saison de moins dans votre vie. C'est le seul moment de vraie tristesse à Paris. Car il y avait là quelque chose d'anormal. Vous attendez à être triste en automne. Une partie de vous-même meurt chaque année quand les feuilles tombent des arbres dont les branches demeurent nues. Seul le vent et le froid, la lumière hivernale. Mais vous savez déjà qu'il y aura toujours le printemps, que le fleuve coulera de nouveau après la fonte des glaces. Aussi, quand la pluie froide tenait bon et tuait le printemps, on eût dit la mort inexplicable d'un adolescent. Et même si le printemps faisait toujours parvenir et il était terrifiant de penser qu'il avait failli succomber.
Merci Julien. À nouveau une lecture d'Amandine.
Alors c'est un tout petit bout de Zazie dans le métro, de Queneau. L'être ou le néant, voilà le problème. Monter, descendre, aller, venir, tant fait l'homme qu'à la fin il disparaît. Un taxi l'emmène, un métro l'emporte, la tour n'y prend garde, ni le Panthéon. Paris n'est qu'un songe. Gabriel n'est qu'un rêve, charmant. Zazie, le songe d'un rêve ou d'un cauchemar. Et toute cette histoire, le songe d'un songe, le rêve d'un rêve, à peine plus qu'un délire tapé à la machine par un romancier idiot. Oh, pardon.
Christian, tu as un micro juste là, regarde. Une autre lecture de Christian.
Donc, je vais vous lire une chanson de la scène de Jacques Prévert. Alors, Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restant face à face, tandis que sous, le pont de mon bras passe. Des éternels regards, l'onde s'y lasse. Vive la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va, comme dans cette eau courante. L'amour s'en va, comme la vie éclate. Et comme l'espérance est violente. Vive la nuit, sonne l'heure, les jours sont bons, je demeure. Passe les jours et passe les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sur le pont de Mirabeau coule la Seine. Christian Rhin, j'aime de fumer, schizophrène affectif. Ouais.
Merci Christian. Fanny, tu voulais relire. Tu avais un autre texte à lire ? Non ? Moi, du coup, je vais vous lire un texte de Charles Baudelaire. C'est Chacun sa chimère. Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse, sans chemin, sans gazon, sans un chardon, sans une ortie, je rencontrais plusieurs hommes qui marchaient courbés. Chacun d'eux portait sur son dos une énorme chimère, aussi lourde qu'un sac de farine ou de charbon, ou le fourmillement d'un fantassin romain. Mais la monstrueuse bête n'était pas un poids inerte, au contraire. Elle enveloppait et opprimait l'homme de ses muscles élastiques et puissants. Elle s'agrafait avec ses deux vastes griffes à la poitrine de sa monture, et sa tête fabuleuse surmontait le front de l'homme, comme un de ces casques horribles pour lesquels les anciens guerriers espéraient ajouter à la terreur de l'ennemi. Je questionnais l'un de ces hommes, et je lui demandais où il allait ainsi. Il me répondit qu'il n'en savait rien, ni lui, ni les autres. Mais évidemment, ils allaient quelque part, puisqu'ils étaient poussés par un invincible besoin de marcher. Chose curieuse à noter, aucun de ces voyageurs n'avait l'air irrité contre la bête féroce, suspendue à son cou et collée à son dos. On eût dit qu'il la considérait comme faisant partie de lui-même. Tous ses visages fatigués et sérieux ne témoignaient d'aucun désespoir. Sous la coupole spinétique du ciel, les pieds plongés dans la poussière du sol aussi désolé que le ciel, il cheminait avec la physionomie résignée de ceux qui sont condamnés à espérer toujours. Et le cortège passa à côté de moi et s'enfonça dans l'atmosphère de l'horizon, à l'endroit où la surface arrondie de la planète se dérobe à la curiosité du regard humain. Et pendant quelques instants, je m'obstinais à vouloir comprendre ce mystère. Mais bientôt, l'irrésistible indifférence s'abattit sur moi et j'en fus plus lourdement accablé qui ne l'étaient eux-mêmes par leurs écrasantes chimères. Charles Baudelaire. Un nouvel arrivant parmi nous.
Femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
En direct du RERB. Alors, Julien ?
Aucun commentaire, ça va trop vite.
Marc, en direct du RERB.
RERB. RERB.
RERB ? Waouh, c'est chaud.
La suite de nos aventures dans quelques instants. Je sais plus où il est.
On est où là ? On est à la capitale ?
Non, on est à Saint-Michel.
Saint-Michel.
On est là.
Saint-Michel-Notre-Dame.
Tu vois, il faut prendre direct Cluny, en fait. Mais normalement, on peut marcher et... Ça marche, vous ? Je sais pas où j'ai mis, en fait. Non, mais je sais pas où je l'ai mis, mon ticket. Hein ? Non, mais je crois qu'il faut qu'on sortie.
Il faut qu'on aille à pied.
Il faut qu'on aille à pied. Michel Cluny, bah oui, la Sorbonne. Parce que... Sinon, il faut qu'on reprenne le B, il n'y a pas de...
Nous allons passer à la deuxième partie donc, de l'émission qui sera consacrée, donc qui sera découpée en deux parties. Donc, vous allez nous présenter un petit peu voilà, votre visite de Paris. Et notamment, vous êtes rendu à Paris pour les rencontres vidéo en santé mentale donc, qui se déroulaient du 16 au 17, octobre, au 17 novembre à la Cité des sciences et de l'industrie. Voilà, donc, vous avez passé deux jours là-bas. Donc on va commencer par cette partie et ensuite on continuera sur le Paris du pouvoir. Donc a priori une visite que vous avez faite des lieux de pouvoir de Paris. Qui veut introduire cette partie du coup sur les rencontres vidéo en santé mentale ?
Alors, on est parti à Paris du 17. Enfin, le 16 et 17 pardon, novembre, à la Cité des sciences et de l'industrie pour la 18e édition des rencontres vidéo et santé mentale. Donc, c'était organisé par de nombreux partenaires, notamment Mediapsy, en partenariat avec la Cité de la Santé, l'hôpital Maison Blanche et surtout les CMA. En fait, on y est allé, c'était notre première grande sortie du GEM. On est parti à 8. On est revenu à 8. Alors, c'était assez dense hein, comme voyage, et notamment les rencontres, c'était très très dense parce que la programmation s'est allée. On voyait des films le matin, enfin, du matin au soir. Non-stop, donc c'est vrai que par moment on est sorti, on a fait un peu autre chose. Ce qui était vraiment intéressant, c'est que c'était des. Parce qu'on a rencontré beaucoup de gens aussi, beaucoup d'autres structures. Alors il y avait beaucoup de. Enfin, pas mal de GEM, d'autres GEM, des CATTP, des centres qui accueillent un public plus jeune aussi, des Belges, des Canadiens, donc ça venait vraiment d'horizons très différents. Et puis il y avait des débats à la fin. Enfin, il y avait, à la fin de chaque séquence, il y avait des échanges avec le public, ce qui était vraiment très intéressant. fait, surtout sur la construction des films, le temps que ça prend, le montage, enfin, l'aspect aussi technique, l'investissement de chacun. Et chaque structure a sa façon de fonctionner, en fait. Hein.
Mais du coup, c'était une ouverture sur le réseau, qui est quand même un réseau qui est quand même intéressant. Quoi, de fonctionnement différent, de manière aussi de construire les films, etc. De vision, de travail aussi un peu différente des uns et des autres.
Exactement, puis en fonction des réalisateurs avec lesquels ils travaillent, c'est des optiques très très différentes. Hein. Il y en a, c'est un travail de fiction, certains c'est plus du reportage, il y a des choses complètement incongrues, complètement un peu folles, hein, on peut dire. Des images assez délirantes en fait. Et après, il y a vraiment la réalité aussi de la psychiatrie, pas mal de témoignages. Voilà. Oui. Après, il y a des. Enfin, je pense qu'on va parler des films qui nous ont le plus marqué, parce qu'il y a quand même eu des moments assez frissonnants, des choses qu'on a vues qui étaient incroyables. Voilà. On va
et du coup, moi, j'avais. Et par rapport. Par rapport au film, du coup, est-ce que tu parlais de réalisateur ? Du coup, la majorité des films ont été complètement autoproduits, c'est-à-dire par les personnes qui travaillent dans les différentes institutions, avec les personnes qui sont accueillies, ou est-ce qu'il y a également une majorité de réalisateurs qui se sont associés à cette démarche-là, ou c'était à peu près équilibré ?
C'était à peu près équilibré, en fait. Enfin, c'est surtout des films qui ont été faits en atelier, donc généralement, c'est quand même, ça prend au minimum un an. Donc c'est vraiment un travail d'atelier où un réalisateur vient en étayer un peu le projet d'atelier, il l'accompagne. C'est assez rare que ce soit mené de A à Z par l'intervenant. Enfin, c'est toujours fait.
Il y a quand même majorité d'un accompagnement par un réalisateur qui s'est investi du projet et qui a apporté un étayage technique et...
Mais après, bon, pour beaucoup de films, le montage, les participants participent. C'est un peu redondant.
Ça joue aussi sur ceux qui participent à ces rencontres-là, en fait. Je pense sur la sélection qu'ils font. Ça joue aussi là-dessus. La participation n'est pas que le réalisateur. C'est vraiment une part entière des deux. Des acteurs.
Mais ouais. Après, il y a juste le premier film qu'on a vu, qui s'appelle La fleur à moustache, qui là était. C'est pas un travail d'atelier, c'était une jeune réalisatrice, Marie Béchoux, qui a fait un travail sur sa grand-mère. Et ça, c'était parrainé par le France Alzheimer.
D'accord.
Donc là, c'était pas du tout un travail d'atelier. C'est le seul film en fait qu'on a vu qui n'était pas un travail d'atelier, qui était vraiment une démarche d'une réalisatrice de faire un film sur sa grand-mère. Ça nous a énormément touché ce film. C'était le premier qu'on a vu. Oh, on était. Tu veux en parler, Julien ?
J'ai pas grand-chose à dire, sauf que voilà, c'était vraiment touchant. Là, c'est vrai.
C'est un travail assez délicat en fait sur pour resituer un peu l'histoire. C'est Marie Béchaud fait un film sur sa grand-mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, donc qui vit encore avec son grand-père qui lui aussi a, on peut dire, un peu des troubles de la mémoire. C'est un regard vraiment porté délicat sur et tendre sur la maladie de sa grand-mère, où au final on la voit souriante plutôt, hein. Plutôt souriante, plutôt drôle, quand elle cherche des mots, et en fait elle les trouve pas, elle éclate de rire ou elle chante des chansons, et on la suit comme ça, vraiment un parcours, puis comment la famille accompagne en fait cette dame, c'était vraiment touchant.
Oui, et puis beaucoup de gens ont demandé si c'était pas une actrice en fait, si elle jouait, alors que non, pas du tout, c'était vraiment naturel.
Enfin, naturel, et après c'était intéressant ce qu'elle racontait aussi. Elle disait forcément moi je suis sa petite fille, donc il y a une complicité entre nous qui existe, mais quand même mamie elle s'allume dès que je branche la caméra, et ça c'était très fort comme phrase, hein, y avait le regard qui s'allumait, elle décrivait ça très bien, que sa grand-mère s'allumait et s'éteignait aussi.
Avec la caméra.
Avec la caméra. Ça, c'était le premier film qu'on a vu. Après, le deuxième film, enfin, bon, on en a vu plein, on ne va pas tous les citer. On avait vachement envie de parler d'un petit documentaire de 5 minutes qui s'appelle C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ?
Alors, c'est quoi, justement ?
Eh ouais, c'est quoi ? En fait, c'est donc c'est très court, hein, 5 minutes. C'est un montage, en fait, du 3e forum des clubs thérapeutiques qui a eu lieu à Gennevilliers en juin 17... Oh, mi, ouais, 2017, pas 1917.
1917.
Alors, Amandine.
Alors. Et en fait, donc, le truc, c'est le terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs. Donc, on s'est senti quand même assez concernés, parce que c'est vrai que la façon dont on travaille ici, le GEM, c'est vraiment empreint de... de la philosophie des clubs thérapeutiques. Et il y avait une très belle intervention de Louis. En fait, il racontait un peu. Hein, donc Louis qui travaille au club de Sommerie, qui expliquait ce que c'était ce terrain de rassemblement. Mm-hmm. Ça nous a pas mal parlé.
C'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai des troubles de la mémoire et c'est vrai que c'est les images en général ça reste pas trop chez moi quoi. Mais on a vu plusieurs petits courts-métrages autour des intranquilles et on a eu la chance après de pouvoir interviewer le réalisateur Nicolas Contant et on va travailler ensemble.
C'est une très bonne nouvelle.
Alors, Artaud, je vais lire. Hein. Artaud raconte Artaud en image par image avec des figurines pour enfants. Il y en a de toutes sortes, des grandes et des petites, des droites et des tordues, des chinois et des tyrannosaures, des sportifs et des professeurs nimbus. En fait, c'était le film qui resituait le centre Artaud au milieu de son environnement.
Alors, il parlait de la psychiatrie, des internés et des infirmiers, comment on pouvait sortir de là et comment se retrouver dans un GEM ou autre organisme. Et donc après, dans la suite des choses, on pouvait prendre un appartement, tout ça, ça change de la prise en charge en psychiatrie, quoi. Voilà.
Il parlait du coup, il présentait vraiment l'après... L'après-hôpital,
voilà.
L'après-hospitalisation. Oui, voilà, oui. D'accord, oui, c'est intéressant. Hein.
Ouais, parce qu'il y a des gens qui restent plusieurs années, voire quand même plusieurs dizaines d'années, même, parfois. Mm-hmm. Et ils arrivent quand même à en sortir, quoi. Grâce justement à ces groupes-là, quoi.
Mais c'est vrai que. Ça, c'est pareil, hein, ça, le centre Artaud, il est. Assez actif au sein du mouvement de la psychothérapie institutionnelle. Et ce qui était intéressant dans ce petit film, c'est comment les différentes structures s'articulent entre l'hôpital de jour, le GEM, l'hôpital classique, en fait. Comment tous les apparts associatifs, comment tout s'articule, les ateliers, et comment tout ça fait sens pour que la personne elle s'y retrouve au mieux en fait et qu'elle puisse vivre dans la ville en fait à Reims, ce qui sont ces Reims. Oui, c'est vrai que si on parle de la réalisation elle-même, enfin du film en lui-même, c'était en effet plein de petits dessins avec des figurines, mais c'était très graphique.
D'accord.
Où il y avait on voyait les différentes entités,
les chemins. C'est simple à comprendre.
Ouais. Oui, voilà, c'était très schématique et en même temps, ça, on comprenait bien de ce qui leur tournait.
C'était illustré, quoi.
Ouais, voilà, exactement.
Part. D'accord. Et du coup, est-ce que une question qui me venait déjà tout à l'heure, mais au niveau du public, le public qui est donc venu assister à toutes les diffusions des films et tous les courts-métrages, on était sur quel type de public ? Parce que du coup, c'est vrai que c'est intéressant, c'est intéressant hein, pour toutes les personnes qui fréquentent ce milieu, mais en même temps, c'est intéressant aussi pour les personnes qui ne connaissent pas forcément la psychiatrie, ce qui s'y passe, quelles sont les différentes modalités d'admission, qu'est-ce qui se passe après, etc. etc. Donc c'est vrai que, par exemple, ce genre de court-métrage, ça peut être intéressant aussi pour le grand public qui a juste des représentations parfois erronées de la psychiatrie et de la folie. Donc ma question, c'était vraiment, est-ce que au niveau de la fréquentation des rencontres...
On avait deux dames devant nous, je me souviens, qui se marraient pas mal d'ailleurs. Et qui, elles étaient, c'était des aidants, on va dire, enfin
des aidants familiaux.
Voilà. Mais elles étaient venues aussi par curiosité, quoi. Parce que...
Après, je pense que dans le public, majoritairement, c'était quand même essentiellement des gens qui avaient réalisé, en fait, des films et qui venaient voir le travail des autres. Il y avait pas mal de soignants, quand même, des infirmiers.
Des patients aussi,
forcément. Ça qui était intéressant aussi, c'est que tout le monde voyait le travail de tout le monde et comment ça discute après, comment ça discute autour des films, des expériences de chacun. Nous, on était finalement un des rares groupes à pas avoir de... Parce qu'on nous a posé plusieurs fois la question, mais vous avez réalisé quel film? Mais nous, on n'était pas là pour... Enfin, on n'a rien réalisé, on est juste là pour voir les films, justement.
En visiteur.
Voilà. C'est vrai que je pense qu'on n'était pas très nombreux en visiteurs.
D'accord. Ouais. Alors que c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'à Paris, justement, il peut y avoir cette ouverture, parce qu'il y a cette diffusion des rencontres, etc., de la publicité, ce qui permet quand même un grand nombre de personnes de pouvoir y venir, de pouvoir regarder ces courts-métrages, etc., qui ne sont pas forcément ni des patients ni des soignants. Donc c'était ça un petit peu sur l'ouverture autre aussi au public. Du coup, c'est intéressant de dire qu'il n'y a pas forcément encore beaucoup de visiteurs, mais...
Je pense que Amandine a raison, les visiteurs extérieurs n'étaient pas... Il n'y avait que des gens concernés, quoi. Mais en même temps, il n'y avait que des gens concernés, mais tout type de public à la fois, quoi. Parce qu'il y avait vraiment soignants, et c'est en ça où c'était intéressant. J'imagine qu'il y avait des médecins... Des trucs comme ça, quoi.
Des trucs comme ça. On garde la formule. Des trucs. C'est quoi ce truc, d'ailleurs?
Je vais garder la parole parce que, notamment autour des intranquilles, donc il y avait plein de petits cours qui décrivaient, en fait, plus ou moins individuellement... Des parcours, quoi. Et il y en a un qui nous a beaucoup touchés, qui s'appelle Pierre. Pierre se souvient de son parcours en psychiatrie. Alors, c'était très touchant parce que ce monsieur, il a été filmé en... Comment on appelle ça ? Il était en gros plan, quoi. Et pendant 3 minutes, il est en gros plan. Et puis... en fait, c'est une voix off qui raconte sa vie. Donc, un parcours en psychiatrie assez bouleversant, quoi, très long.
Très long aussi.
Ouais. Et l'image était vraiment belle et les expressions qu'il pouvait avoir, ce monsieur, étaient chouettes. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que dans le film, il ne parle pas. Par contre, sur scène, il s'est exprimé, quoi. Il a refait un peu son parcours de vie, quoi. Et ça, c'est un long parcours, hein, vraiment.
Comme je disais tout à l'heure, il a eu pendant des années une solitude assez intense, quoi. Et par la suite, il a changé d'hôpital et il a pu se servir de ses mains, faire des cages à pigeons, s'occuper d'une caisse carrément, s'occuper d'une caisse à, je ne sais plus, café ou je ne sais plus trop quoi.
Une cafétéria, voilà, oui.
Cafétéria, voilà. D'accord.
S'occuper de la caisse, c'est ça qui l'a remonté, ça l'a remonté, quoi. Mm. Ça l'a... Puis, voilà.
Ça se voit, enfin, d'ailleurs la fin du cours est assez incroyable parce que donc, comme disait Fanny, il y a ce plan fixe de cet homme. Puis à la fin, on le voit, enfin, donc, et le texte, son texte est lu par une femme, une voix de femme. Et on voit progressivement une esquisse de sourire, on le voit sourire carrément. Et le plan, enfin le champ s'ouvre et en fait on voit son, on ne sait pas si c'est son amoureuse, son amie, sa voix aussi, et on les voit tous les deux en train de se marrer. Et ça c'était mais émouvant, rien qu'à en reparler j'ai des frissons, mais vraiment c'était incroyable. En effet il y avait des étoiles plein les yeux et on sent que c'est, enfin qu'il s'est passé quelque chose de vraiment intense pour lui. Et d'avoir rencontré le centre Artaud, en fait, ça a permis à ce qu'il retrouve une vie. Une vie. C'est vrai que c'est 3 minutes d'une très grande intensité. Hein. Puis après, après notre film Chouchou qu'on a revu et revu, parce qu'il est en intégrale sur la toile, ça s'appelle le récital lexical. Donc c'est le centre Artaud avec le GEM, la locomotive et les haut-parleurs. Alors c'est un petit film fait de définition. Ça transgresse, on va dire, le prêt à parler et le prêt à penser. En fait, c'est issu d'un travail d'atelier d'écriture. Donc ils reprennent un peu des mots. Qui travestissent, en fait, j'ai en tête paranorama, point de vue qui se prend pour un point de mire. C'est plein de petits mots comme ça, enchaînés, hein, avec des portraits de. Et on ne sait pas si c'est des gens du GEM, des infirmiers, enfin, c'est tout mélangé. Et c'est.
C'est marrant.
Ouais, c'est vraiment chouette. D'ailleurs, on glissera le lien pour voir le film.
Oui, donc celui-là, il est visible sur.
Il est visible sur.
Vimeo.
Oui,
voilà. Sur Vimeo, ouais. D'accord.
Ça s'appelle un récital lexical.
D'accord.
C'est d'une drôlerie. Puis ça fait du bien de se ressaisir finalement.
Dans la scène, on a ri beaucoup et les gens se sont lâchés en fait. C'est vrai que ça faisait un moment que personne ne. On n'entendait pas beaucoup rire. Bon, toi, t'as un rire assez. on t'entend énormément sur le petit micro, les petits, mais j'adore. Et ça a fait du bien, en fait, ça.
Oui, parce que c'est des mots, finalement, que tout le monde emploie. Alors, enfin, dans la psychiatrie, ça parle de psychiatrie, de pathologie. C'est des mots que tout le monde emploie. Plus personne ne sait bien ce que ça veut dire. C'est vidé de sens.
Vidé de sens, ouais, c'est vrai.
Et là, d'un seul coup, de les travestir, de leur faire prendre un autre passage, de les réinventer, d'un seul coup, il y a tout un sens qui revient. Et c'est parler de soi aussi. Et puis, on pourrait en dire beaucoup, hein, sur la nouvelle langue et la nouvelle langue. Enfin, voilà, comment aussi une idéologie s'empare, enfin, elle s'empare de la langue, hein, de toute façon. Et la psychiatrie n'échappe pas à ça du tout.
Non. Hein,
enfin, au même titre que l'économie et que la vie dans la société en général.
Tu veux juste dire qu'en fait, le vocabulaire économique est en train de prendre le pas sur tout ?
Oui. Exactement. C'est un beau résumé de ma pensée.
Que nous partageons, enfin en tout cas que je partage à titre personnel. Donc c'était ça a visionné sans modération sur Vimeo. Hein.
Oui, on va mettre le lien, je pense, aussi dans le petit défibrillateur. Et puis on espère quoi, enfin bon, comme disait Fanny, on est en lien avec le centre Artaud à Reims, avec
notre prochain voyage.
Oui, avec Nicolas Contant aussi. Et on espère bien pouvoir organiser une soirée avec eux. Voilà, ça c'était pour notre première journée bien intense, et la deuxième journée. Donc le vendredi, est-ce que tu veux parler de psychiatrase ?
Ouais. C'est un peu démagogue. C'est c'est l'histoire d'un lieu de psychiatrie, justement, où comment dire,
c'est
assez ouvert. On a vu au départ un lieu de psychiatrie, et puis il y a un chanteur de rap qui a fait une musique très sympa par la suite, quoi. Voilà, c'était sympathique, quoi.
Mais oui, c'est assez drôle, parce que finalement, c'est les patients qui jouent. Ouais. Notamment, ça s'ouvre comme ça, ça s'ouvre sur la prise des médicaments. Et alors, ouais, c'est les patients qui jouent aux infirmiers. Ouais. Et il faut le prendre, et tu n'as, ouais, pas pris son traitement. Ah, tu ne veux pas le prendre. Je vais appeler le médecin. Docteur. Et puis finalement, hop, ça s'ouvre. Et en effet, il y a ce long, long rap qui raconte la mélancolie de la psychiatrie aujourd'hui, en fait.
Normalement, il est sur Dailymotion, psychiatrase.
Ok.
Après, on essaye de trouver les liens quand c'est disponible. Je pense qu'on les mettra sur le site aussi, sur le Facebook de Rhizom.
Oui, comme ça. Puis nous, on les mettra aussi en lien sur la prochaine émission, sur le site de la radio des Petits Agités. Du coup, on mettra aussi les liens vers les vidéos. Voilà, c'est chouette.
Et après, le film dont on voulait parler. Alors, celui-là, je crois que que vraiment, on l'a adoré. Ça s'appelle Raté en beauté. C'est un film qui dure 30 minutes, qui est une production du centre Étienne Marcel et la Maison des Métallos à Paris. C'est un centre qui accueille des jeunes, des très jeunes gens. C'est leur deuxième travail, atelier, enfin je crois, hein, peut-être je m'avance. En tout cas, avec les métallos. Et là, c'est un film sur la réussite et le raté.
Il y a un jeu de ping-pong entre le réalisateur qui veut absolument faire un film sur la réussite et les jeunes qui, eux, veulent faire un film sur le ratage.
Ouais, sur le ratage et sur les... En fait, c'est ça qui est beau dans ce film, c'est les ratages et les chemins de la vulnérabilité, en fait. Il parle beaucoup de ça, de la vulnérabilité, et que ben il y a quelque chose qui... Il y a un moment où il parle, c'est beaucoup de dialogue, en fait, de dialogue monté pendant le film, justement, en dialogue entre le réalisateur et puis les jeunes. Et il y a un jeune qui dit « Oui, mais on parle... je sais plus comment il s'appelle, le mec qui a créé Facebook,
Zuckerberg.
Oui. Mark Zuckerberg, oui, et l'autre figure importante de la, je ne sais plus, Bill Gates ou je sais pas quoi, qui ont arrêté leurs études et qui ont réussi, mais on parle de deux personnes, mais il y en a combien qui ratent, mais on parle que de ces deux-là. Je trouvais que c'était vraiment, enfin il y avait une conscience chez ces jeunes assez incroyable.
Alors, il parle aussi de comment se détendre au niveau du raté, quoi. Enfin, comment on peut se reprendre sur un raté et reprendre sur un acquis. On a le droit de rater pour un peu plus de réussite.
Oui.
Voilà.
Moi, ce film m'a vraiment interrogé dans le sens où finalement l'éducateur arrive pour apporter quelque chose à ces jeunes, et au final c'est lui qui en ressort grandi, et voilà, c'est dans toute expérience on apprend toujours de l'autre, et là c'était vraiment très très fort, et on l'a vraiment bien bien senti et ressenti, enfin moi en tout cas.
Mais c'est vrai que ça, c'était vraiment très fort, ça, ce moment où on sent Stéphane qui erre, qui est complètement
démuni,
et en fait c'est les jeunes qui font corps autour de lui pour le porter.
Ouais.
C'est
Stéphane qui, du coup,
qui est le réalisateur, en fait,
d'accord.
qui est le réalisateur du film, qui, oui, qui erre, qui ouvre des portes, qui sont toutes fermées. Mmh. Dans l'image, c'était ça, quoi. Et finalement, c'est les jeunes qui le... Voilà, voilà. C'est, exactement. On change les rôles et ça, ça fait du bien de voir ça aussi. Est-ce qu'on parle d'autres films ? Alors c'est pareil, Raté en beauté, on les a contactés parce qu'on aimerait bien pouvoir ben, que ce film soit vu ici aussi. Qu'on attend, enfin, sur l'idée, sur le principe, ils sont complètement d'accord. Après c'est Paris, enfin, Paris Fumel, c'est
ça s'organise.
Voilà, c'est un peu long.
Voilà.
Mais ça serait vraiment chouette, je pense que ben, ça nous a donné quand même pas mal d'idées. Hein. De ces rencontres à la fois, peut-être pourquoi pas d'organiser nous-mêmes un atelier vidéo, en tout cas d'y penser, mais pourquoi pas aussi finalement organiser des rencontres, enfin, ou une semaine de films, de cours, enfin, ça peut être des choses, même si on ne réalise pas, on peut essayer de les faire voir tous ces films.
C'est un travail de longue haleine, hein. Ça ne se fait pas en un jour et. Faut trouver le thème déjà. Faut trouver le thème. Et faut pas se donner de limite, quoi.
Exactement.
Pas se donner de limite et non plus de temps. Parce que si on se donne un temps bien précis, on peut bloquer et se
tordre.
Se coincer.
Se coincer, ouais.
Ouais, voilà, c'était une...
Ça avait l'air riche en tout cas de beaucoup de choses. Ouais.
Oui.
C'est vrai qu'on avait regardé un petit peu le programme avant ensemble, hein, mais ça avait l'air foisonnant.
Oui. Voilà, après, il y a des films qu'on n'a pas aimés. On s'est dit qu'on n'en parlait pas du coup.
Non,
mais il y en a quand même, voilà. Après, c'est ça aussi. Hein. Enfin, on peut développer un œil critique aussi. Ça permet ça aussi, hein, d'en voir plein. Ça permet de développer. Un œil critique.
C'est la pause cigarette en même temps.
Oui. Oui, voilà. Après, c'était assez chouette. Hein. Du coup, on a. La Villette, c'est un endroit quand même bouillonnant, grouillant, qui est à la fois paisible aussi parce qu'on a pique-niqué dehors, on a fait du toboggan géant. Enfin, on s'est quand même amusé. Hein.
Ouais, c'est super.
Et c'est vrai qu'à la Villette, t'es un peu excentré de Paris. Enfin, t'es pas dans le cœur, dans
c'est
le
flux. C'est un endroit qui est très particulier, la Villette. C'est vraiment un endroit à part dans Paris. Je trouve que c'est vrai que
ça fait du bien aussi, ça. Parce que quand on sentait qu'on était trop, que c'était trop, on pouvait aller dans le parc, souffler, se raconter des conneries et et manger du chocolat.
Alors ensuite, donc nous allons écouter une série de reportages qui ont été faits pendant les rencontres vidéo en santé mentale et pendant votre visite à Paris.
Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez ?
Moi c'est Nicolas Contant.
Enchanté Nicolas Contant. Enchanté. Vous êtes réalisateur du film « Nous les intranquilles » et ce film nous intéresse grandement. Ça fait combien de temps qu'il a été tourné ?
Donc on a commencé le tournage, je dis « on » parce que j'en suis le réalisateur, mais les collègues du groupe cinéma sont aussi les co-réalisateurs du film, donc c'est une initiative collective. Et donc on a commencé à tourner en 2013, et on a terminé le film il y a un peu plus d'un an. Et donc il y a eu d'abord un temps de tournage de 3 mois, et ensuite pendant 2 ans ou 3 ans, on a fait des allers-retours entre le montage et le tournage.
Ah d'accord, ok. Et je voyais qu'il était diffusé, c'est une diffusion gratuite ou...
Ça dépend, c'est au cas par cas. De temps en temps, c'est dans des salles de cinéma, dans les centres-villes, et à ce moment-là, c'est des séances commerciales, donc les gens payent l'entrée au cinéma. Parfois, les gens achètent le film, et puis c'est diffusé gratuitement aux gens qui le veulent. Et puis pour des centres qui ont moins de financement, on trouve des arrangements à chaque fois, au cas par cas.
Ah d'accord, parce que nous c'est vrai qu'il nous aurait bien intéressé pour le diffuser au cinéma Le Liberty à côté de chez nous.
Eh bien, faut qu'on en prenne note et puis qu'on voit comment c'est possible de faire ça. Mais je sais pas si je rentre en détail tout de suite, si je rentre dans le détail des choses tout de suite.
Non, pas tout de suite. De toute façon, on correspond par mail.
Ouais, d'accord, ok.
Ouais.
vous aviez d'autres questions ?
Non, là, pas pour l'instant. Je vous remercie beaucoup. Et puis, bon.
Est-ce que vous l'avez vu, vous, à titre personnel ? Non, je...
Vous avez... Nous, les intranquilles ?
Oui.
Non.
Mais vous avez reçu le lien vers le film ? Je vous l'ai envoyé ou pas ? Non, je ne l'ai pas envoyé. Ce serait bien, avant de... Ce serait bien que vous puissiez le voir, vous, déjà. Ouais. Comme ça, ce serait plus facile pour ensuite porter la projection auprès de votre région, quoi.
Oui, d'accord.
Donc, je vais vous envoyer okay. ça.
OK. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci. L'hospitalisation dans un service de psychiatrie a duré plusieurs années, de 1994 à 2001. Je ne connaissais personne, je n'avais d'échange ni avec les patients, ni avec les soignants. J'étais tout seul, on ne venait pas me parler, et moi j'étais timide. De 2001 à 2005, j'ai été hospitalisée dans un autre service, à la clinique Henriet de Reims. Là, les choses étaient très différentes. Mon infirmière référente m'a présenté les activités et le club thérapeutique. Il y avait le kiosque où les patients de toute la clinique pouvaient acheter des boissons, des gâteaux, des barres au chocolat. J'ai participé à la vente. On était deux. Il y avait toujours quelqu'un de l'équipe à côté de moi qui m'aidait si j'en avais besoin. Et petit à petit, j'ai pu tenir la caisse. Il y avait une autre activité que j'aimais beaucoup. Avec d'autres patients, nous construisions des cages pour les oiseaux et nous les mettions dehors l'hiver avec de la nourriture. Cette hospitalisation est ce qui m'a sans doute le plus aidée. Là, j'étais accueillie. Des soignants sont venus me parler. Et les activités m'ont aussi permis d'aller vers les autres, patients et soignants. J'ai pu rencontrer des patients et avoir des liens d'amitié. Petit à petit, j'ai pu aller voir moi-même les soignants, discuter avec eux, demander à leur parler à part quand quelque chose n'allait pas. Je me sentais utile aussi. Ma référente m'a alors parlé du centre de jour Antonin Artaud, où il y avait des patients que je connaissais de la clinique et du foyer, et où je pouvais participer à des activités. Quelques mois après, un éducateur m'a proposé d'avoir un logement chez des personnes qui avaient une pension et de continuer à avoir des consultations et des activités au centre de jour. Avant ma première hospitalisation, j'avais un appartement et j'ai eu envie de retrouver un logement à moi.
Bonjour, donc vous êtes sur la radio Le Lien du Coin et nous sommes du Lot-et-Garonne et donc nous avons vu votre film cet après-midi qui nous a énormément plu et donc on va reprendre un petit peu les questions de tout à l'heure. Est-ce que l'année prochaine vous comptez refaire d'autres films ?
Oui, on a commencé un film, c'était quand ? En juin ?
En juin
on a commencé, c'est un polar qui va durer peut-être une quinzaine de minutes. Et on a déjà tourné 2 minutes de film, donc on va dire que c'est pas pour tout de suite, mais on espère le présenter l'année prochaine.
D'accord.
Pour rencontre, vidéo.
C'est difficile à mettre en place ?
C'est beaucoup de boulot.
Oui,
beaucoup de boulot. Bah, celui que vous avez vu, c'est un an de travail. Ouais. Six mois de tournage et six mois de montage.
D'accord.
Est-ce que vous voulez dire quelque chose oui, par rapport à votre aventure ?
Quel a été votre ressenti lors du tournage de...
On était contents, on était heureux.
C'est très émotive, hein ?
Oui.
Mais bon, ça me plaît. Moi, je me voir à l'écran.
Je ne sais toujours pas jouer au billard.
Ah oui. Et l'année prochaine, vous comptez retourner encore à notre film ?
Oui, vous avez déjà commencé.
Ouais.
Je suis très fière de le faire.
Ce qu'on n'a pas précisé sur scène, c'est que les décors ont été faits par plusieurs personnes qui sont là, qui sont à l'atelier dessin.
D'accord.
Donc le film a été conjointement fait avec l'atelier dessin pour les décors.
D'accord, c'était vraiment génial. Hein.
Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci, merci à vous.
Donc rendez-vous l'année prochaine.
Ben voilà, rendez-vous l'année prochaine.
Merci. Au revoir.
Merci, au revoir.
Alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée et un homme trop fatigué par le manque de sommeil pour continuer son voyage. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau spatial. Il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé.
Donc félicitations pour ce film qui franchement nous a beaucoup plu. On peut savoir un peu ce qui en est ressorti, comment...
Ça, je voudrais savoir comment dire effectivement, c'est un film qu'on avait vu beaucoup préparer. Aussi qu'on avait beaucoup réalisé.
Et oui, ça. Parce que j'entendais que vous l'avez préparé finalement sur entre septembre et juin.
Et juin, ça c'est beaucoup de préparation. C'est vrai que c'est un petit peu fatigant. Et aussi, comme vous dites, vous avez tout compris.
Bon, en tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire de ratage et de réussite.
Réussite. Et ben, ça me touche beaucoup. Comme j'ai parlé à mes publics qui étaient devant moi.
Oui.
Et ben, je vous remercie de vos interviews.
Bon, eh bien merci beaucoup. Vous voulez évoquer un peu tout ce que vous avez pu, ce que vous avez entrepris, ce que vous avez créé, ce que vous avez vécu, parce que c'est quand même un sacré challenge.
Ouais. Parce que de faire déjà du théâtre, c'est quelque chose, mais alors le film, c'était autre chose, mais de passer de la scène à un film, c'était... C'était impressionnant, ouais. Puis voilà, moi j'étais entourée de mes meilleures amies, donc j'étais pas toute seule, mais c'est vrai que quand on fait un film et qu'on se retrouve tous devant la caméra, qu'on avait Monsieur Chekroun, enfin Stéphane, voilà, et puis c'était une belle aventure en fait.
Et le thème, alors du coup, qui est-ce qui l'a avancé?
C'était Stéphane. Après, il y avait d'autres jeunes qui avaient dit ça aussi, qui avaient dit le ratage. On avait dit la réussite et on a fait le ratage et la beautéage.
Et puis le remettre en doute, ce Stéphane, c'était quand même assez fort.
Fort, hein, pourtant, même moi, pourtant moi, j'y suis arrivé. Bon... Mais malgré ce long tournage du court-métrage, nous avons commencé à faire le montage depuis le mois de mars, alors qu'on était à trois mois avant qu'on finalise. On a dû jouer un peu sur le feu, pour être exact. On a dû jouer.
Et la première fois que vous avez vu le film monter, ça vous a...
On a été choqués. Ouais.
C'est surprenant que la vie de Marat, il a été diffusé le 20 juin.
Ça nous a fait quelque chose de nous voir tous sur le grand écran. On a fait « Ah, c'est nous ouais, !» Il y avait mes parents, il y avait... tout le centre, voilà, et nos parents qui nous voient et dans le film, c'était c'est une fierté en fait. Voilà.
Ça a été en tout cas pour nous un vrai bon moment.
Merci.
Merci
à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.
Alors voilà, la vie, c'est comme un défi permanent. En fait, j'ai l'impression que dans la vie, on se met toujours la pression à réussir. Parce qu'en fait, que ce soit à l'école ou même pendant des concours, on se sent toujours sur un terrain de tennis, avec des gens là-bas qui nous regardent, qui violent leur siège d'arbitre, qui nous intimident. Du coup, on a tellement peur de se planter qu'on n'arrive jamais vraiment à dire ce qu'on voudrait dire. Et ça, du coup, c'est moche. Parce que je pense qu'on devrait les pousser à descendre de ces sièges ridicules. On parle d'égal à égal. On peut s'exprimer sans avoir peur de cette pression de réussite ou d'échec.
Alors, mon plus beau ratage, je dirais, c'est que j'ai raté d'être une danseuse classique. Parce qu'en fait, ma prof de danse, elle m'a dit « Bon, tu vas à la barre. » Enfin, elle m'a barré pour moi, elle n'a rien à faire de moi.
Les autres voies, là où je ne savais pas, vraiment pas patiner, je veux dire, sans lâcher le mur... Je me rappelle que d'avoir tombé à peu près 6 ou 7 fois, et après les autres fois, je me suis fait aider par un autre patineur qui m'a appris à la chair de mur, et puis quelques jours plus tard, je me suis forcé, je veux dire, tout seul en me débrouillant, à pouvoir lâcher le mur encore pour patiner comme les autres. J'ai fait une course comme les autres couraient plus vite que moi. Je suis arrivé dernier, je n'étais pas raté. Je suis allé jusqu'au bout. J'ai grandi dans une cité. Et vous savez, dans une cité, tout n'est pas rose. J'aurais pu mal finir. Mais j'ai rencontré une prof de français qui m'a beaucoup aidé. L'année dernière, nous avons fait un spectacle qui s'appelle Je le sens entre métallo. Et à la fin de ce spectacle, nous avions tous dit une rencontre, c'est un début. Et c'est cette rencontre avec ma prof de français qui a été le symbole d'une nouvelle vie, d'une nouvelle identité et surtout la force de se créer un projet.
Chez moi, on ne parlait pas français, mais on parlait Sri-Lankais. Quand je suis arrivée à l'école, tout le monde se moquait de moi. Moi, au début, je me taisais. J'avais peur de rater. Alors, j'ai suivi la prof et voilà.
Mon nom est Inès. Je suis diagnostiquée avec le syndrome d'Asperger. Mon but dans ma vie, c'est de devenir une illustre actrice et d'investir au Japon. Ma famille est très proche de moi, même si j'ai un passé troublant dans mon enfance. J'espère qu'un jour, je veux réussir, former avec des amis qui sont très proches de moi et survivre.
Mais j'ai révisé l'entrée dans ce site, c'est en cachant mon identité parce que je suis censé et très réservé. Grâce à elle, j'ai réussi cette création parce que j'ai beaucoup d'imagination. Appelez-moi, tous les autres sont ridicules parce qu'ils ont un petit zizi. J'arrive dans le 11e avec un gun. Chaque qui sort, on peut entendre un chewing gun pour empêcher les insultes de pénétrer dans le 11e qui est bien sécurisé.